Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et pour cette 333e émission, nous allons parler d'un projet comme on les aime, un projet qui coche toutes les cases, comme on dit. Il s'agit d'installer des panneaux photovoltaïques plus un site de production d'hydrogène vert sur les anciens terrains des fonderies du Poitou. Pour nous en dire plus, je reçois les deux sociétés à l'origine de cette réhabilitation, Life et TSE, représentées respectivement sur ce plateau par Maud Auger, mais aussi par Alban Casimir. Au sommaire, également vu Arnet, la célèbre marque de lunettes qui revient sous pavillon français après son rachat par LVMH. On vous dit tout dans cette émission. Enfin, en ce week-end de début de la Coupe du Monde de rugby, je recevrai Alexandre Chapelier, c'est le fondateur de Cynabre. Cynabre, spécialiste des cravates et des nœuds papillons made in France et qui vient de sortir une collection spéciale Coupe du Monde. On fera également le point sur le modèle économique et sur les ambitions de Cynabre. Mais tout d'abord, donc, on va continuer à tirer les bilans de l'été après la belle saison du glacier à Morino. On en parlait la semaine dernière. Eh bien, une autre bonne nouvelle pour l'économie, c'est le tourisme qui a retrouvé de très bons, de très hauts niveaux en France, avec notamment le retour de nombreux touristes étrangers. Un exemple de cette bonne santé de notre offre de tourisme, c'est le Puy du Fou. Le parc d'attractions situé en Vendée va battre cette année son record historique de fréquentation. Le détail des chiffres avec Hélène Cornet. Et juste après, on écoutera Nicolas Devilliers, c'est le président du Puy du Fou. Il était cette semaine l'invité de Good Morning Business.
Le parc ne fermera que dans 2 mois, mais 2023 est d'ores et déjà la meilleure saison de son histoire. Le Puy du Fou a attiré 2,5 millions de visiteurs, 200 000 de plus que l'an dernier. Curieux notamment de découvrir le nouveau spectacle, le Mime et l'Étoile, doté d'un budget record de 20 millions d'euros. Le Puy du Fou conforte sa place de deuxième parc à thème derrière Disney. Grâce à des spectateurs toujours plus fidèles, 7 sur 10 reviennent dans les 5 années qui suivent. Une réussite qui lui permet de voir grand et de s'exprimer. Après l'Espagne, le Puy du Fou compte s'installer dans 2 autres pays européens d'ici 2030. Dans les tuyaux toujours des scénographies en Chine et aux États-Unis qui ont pris du retard. Retard également pour le Grand Tour, spectacle itinérant à bord d'un train qui ne devrait accueillir finalement ses premiers voyageurs qu'à l'été 2024. En attendant, le groupe se tourne vers d'autres axes de développement comme l'accueil de séminaires et la filmographie.
On reçoit énormément de visiteurs français d'abord, mais aussi étrangers, c'est-à-dire à peu près 12% de visiteurs étrangers. Mais les Français sont revenus massivement au Puy du Fou et on a plus de 200 000 visiteurs dans une seule année par rapport aux saisons précédentes, ce qui est considérable. On n'a jamais fait des progressions de cette nature-là. En effet, il y a un désir, je crois, des Français de venir vivre des expériences en famille. Je crois que c'est la force du Puy du Fou, c'est que nous sommes d'abord un parc familial. On peut venir avec des jeunes enfants, on peut venir aussi avec la génération des grands-parents et vivre ensemble des émotions, et c'est ça notre force.
Et comment vous arrivez à répondre quand même à cette demande, parce que c'est des spectacles vivants avec des humains qu'il faut recruter, qu'il faut former. Il y a une dimension artistique importante et on entend tous les cafés, les hôtels dire on a des problèmes de recrutement. Vous comment vous gérez ça?
On a créé notre centre de formation
parce dans une région où le taux de chômage est très bas en plus.
Absolument, hein. Vous avez raison, mais on a créé notre centre de formation comme les clubs de football, parce qu'en fait on s'est aperçu il y a bien des années qu'on allait avoir ce problème de recrutement. Et je vous avoue avoir la fierté de l'avoir un peu anticipé. Et avec ce centre de formation, cette école, eh bien, on forme des jeunes artistes, mais on forme aussi au métier de l'hôtellerie, de la restauration, et on donne ainsi des vocations à des jeunes qui rentrent dans l'univers du travail grâce à nous. Et donc, on est un véritable tremplin pour les jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance de la vie active. Ça nous permet d'avoir 2500 personnes employées au Puy du Fou, ici en France, mais on en a aussi 800 en Espagne, 50 aux Pays-Bas, et on est en train de se développer dans d'autres pays.
Et je précise que le parc du Puy du Fou cette année donc va clôturer sa saison le 5 novembre à la fin des vacances scolaires de la Toussaint. On dit souvent que l'union fait la force, en tout cas elle permet cette union de faire aboutir de jolis projets. Bonjour Maud Auger.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes directrice du développement territorial France chez Life. Et bonjour Alban Casimir.
Bonjour.
Vous êtes directeur général délégué en charge de la convergence industrielle dans le groupe TSE. Life, je le rappelle, est producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. On reçoit souvent Mathieu Guéné, votre fondateur sur cette antenne. Et TSE est un producteur indépendant d'énergie solaire. Si vous êtes ensemble sur ce plateau, c'est pour nous présenter, donc j'en parlais dans les titres, la création d'un nouveau parc industriel en plein cœur du Poitou. Il s'agit en fait d'une réindustrialisation d'un site qui a fermé il y a un peu plus d'un an, un site qui fabriquait des culasses pour le groupe Renault depuis une quarantaine d'années. Parlez-nous, Maud Auger, de ce grand projet que vous venez porter et incarner sur ce plateau.
Oui, bien, vous venez de le dire, c'est d'abord un projet de réindustrialisation, parce que c'est un site qui a beaucoup souffert. Donc on est très heureux d'être là aujourd'hui avec Alban. Ce projet, donc c'est ce qu'on appelle un hub énergétique vert, donc un parc industriel où on va rassembler 5 à 8 entreprises sur une thématique commune, la transition écologique.
Alors qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce que vont faire chacun de vos deux groupes? On va peut-être commencer par TSE parce que c'est vous qui allez fournir l'électricité. On va bien comprendre ce dont il s'agit. Vous chez TSE, qu'est-ce que vous allez faire sur cet ancien site industriel?
L'idée en fait au départ était de trouver un foncier où on pouvait avoir un poste source qui soit suffisamment conséquent pour servir nos intérêts. C'était bien le cas avec les fonderies du Poitou. Donc nous, pour démarrer, on va effectivement installer 32 mégawatts, donc c'est à peu près la moitié de la ville de Poitiers en consommation, sur ce foncier. Et puis, cette énergie va servir en ricochet à, je pense, Life pour la partie hydrogène, et puis après pourrait servir encore à d'autres fabricants, par exemple, de biocarburants qui pourraient utiliser l'hydrogène ensuite. Bon, voilà, c'était un petit peu l'idée de l'hub énergétique, c'est la connexion entre ces différents intérêts qu'on peut mutualiser sur un site identique.
Et cette électricité, donc, vous l'utiliserez du côté de Life pour en faire quoi ?
Donc de l'hydrogène renouvelable. L'hydrogène renouvelable, on le produit avec de l'eau et de l'électricité renouvelable. Donc
le système de l'électrolyse.
Exactement, par l'électrolyse de l'eau. Donc en effet, nous, on prévoit d'installer un site de plusieurs centaines de mégawatts. Donc voilà, c'est le projet.
Le calendrier, on parle là, donc ce projet, il a été validé par le tribunal de commerce de Paris il y a quelques temps. Le calendrier sur les prochains mois et les prochaines années, qui veut en parler, Maud?
Le calendrier, donc là, il nous reste différentes étapes à passer avant de pouvoir vraiment réinvestir le site. Il va falloir le dépolluer, déconstruire, derrière obtenir les autorisations pour construire ces différentes unités de production, avant de pouvoir les opérer, donc on espère tout ça avant 2030.
La particularité de ce projet, de ce hub énergétique vert, c'est finalement une alliance, un partenariat entre le public et le privé. Vous incarnez les deux sociétés privées, mais on y trouve la région Nouvelle-Aquitaine, on y trouve la préfecture et la sous-préfecture de la Vienne, on y trouve la communauté d'agglomération de Châtellerault. J'ai envie de vous dire, on connaît parfois les lenteurs un peu de l'administration. Est-ce que ce partenariat se passe bien? Est-ce que vous avez été surpris par la réactivité, les ambitions et l'action de ces collectivités et de ces préfectures? Je ne sais pas qui veut prendre la parole dessus.
Effectivement, je peux commencer en tout cas. Effectivement, ce projet, c'est vraiment la genèse autour d'une rencontre entre Life et TSE grâce à l'intermédiaire de la région Nouvelle-Aquitaine, sans quoi on ne se serait peut-être pas rencontrés, sachant qu'autour de ce projet, on avait des objectifs communs, en particulier en termes de foncier. Je pense que ça a pris du temps. La gestation de cette idée de hub énergétique, elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup. Ça nous a pris, je pense, 12-15 mois, justement avec les différentes parties prenantes que vous avez mentionnées, pour arriver à construire, co-construire ensemble cette idée de hub énergétique qui a fait mouche, on va dire, au niveau de ces administrations et pouvoirs publics, qui nous ont même accompagnés le jour où l'ordonnance du juge a été rendue. Donc voilà, je pense que ça marche très bien, et peut-être qu'il y a certaines lenteurs administratives, peut-être qu'il y en aura encore, mais en tout cas, on peut compter sur leur soutien passé, présent et à venir, et c'est important pour nous.
Mais c'est vous qui êtes dans l'opérationnel maintenant, c'est vraiment vous qui allez mener les choses, et eux c'est quoi maintenant? C'est un soutien logistique, un soutien peut-être financier aussi. On parlait de dépollution, est-ce que vous allez être éligible au fonds vert pour la dépollution du site?
Comme disait Maud, c'est vrai que En fait, sur ce site-là, on va avoir besoin d'eux toujours, puisque ça va se faire en plusieurs temps. Aujourd'hui, il y a l'acte de vente qui doit être signé. Il y a toujours le liquidateur qui est en charge de la réhabilitation du site. Donc, quand on parlait de dépollution, c'est lui qui est en charge de le faire. Il le fait très bien jusqu'à maintenant. Il faut se rappeler aussi qu'il y a toujours une société, Chabimo, qui est sur site pour démanteler l'intérieur des bâtiments. Donc, on ne pourra pas intervenir avant qu'eux soient partis. Et toutes les autorisations administratives, en particulier le permis de construire et les études d'impact environnemental, doivent être faits, vont être faits sur les 18 prochains mois, avec le concours évidemment de ces administrations. Sans elles, rien ne pourrait se passer.
Alors, vos entreprises, elles vont s'implanter, on l'a bien compris. Alban, vous m'avez dit, je crois que d'autres entreprises à terme devraient rejoindre. Est-ce qu'il y a déjà des choses annoncées, des choses signées, outre Life et TSE, est-ce qu'il y aura d'autres entreprises sur ce hub énergétique vert?
En tout cas, sur notre partie, parce que l'idée, c'est qu'on puisse se partager nos fonciers. Donc, Life pourra dire ce qui va se passer sur le sien. Mais sur le nôtre, oui, nous, l'idée, c'est de pouvoir installer également une plateforme logistique avec laquelle on a déjà signé une lettre d'intention avec un développeur pour, je crois, leur octroyer 4 hectares de notre terrain pour qu'ils puissent justement venir installer leur plateforme. Et pourquoi pas recevoir aussi du photovoltaïque en toiture et en ombrière. On ne s'arrêtera pas au sol.
En termes de création d'emplois, donc on rappelle que les fonderies du Poitou, c'était je crois 600 personnes à la fin, ça a été jusqu'à 1200 au pic de l'activité il y a quelques années. Le projet, il va créer combien d'emplois?
Donc à terme, le projet créera entre 250 et 300 emplois. Donc comme je le disais, répartis sur l'ensemble du hub énergétique qu'on souhaite créer.
Ouais. C'est pas seulement vous qui allez créer ces 200-250, vous allez en créer combien?
C'est difficile à dire aujourd'hui puisqu'on est encore en train de voir exactement combien de puissance on installe et ça dépendra énormément de la puissance installée.
Un mot sur vos deux entreprises, évidemment. Donc Life, je le disais, on vous suit depuis très très longtemps. Pourtant, c'est pas une si vieille histoire. C'est 2019, hein, je crois, la création par Mathieu Guéné. Mathieu Guéné, je l'avais rencontré au salon Evolution en février dernier. On avait parlé donc d'un projet fin 2023 en Haute-Garonne. Il y avait aussi des projets en cours dans le Morbihan. On en est où du développement de Life et de son hydrogène vert?
Donc oui, aujourd'hui, on a deux sites en opération. Notre site historique en Vendée et puis la plateforme de test qu'on a mis en mer en septembre dernier. Et comme vous venez de le dire, 5 sites qui sont en construction, donc 2 en France et d'autres en Allemagne et en Suède.
Et parce que ça veut dire qu'au total, vous êtes présent dans combien de pays en Europe? Et je crois qu'il y a aussi le Canada, je crois aussi.
Alors, on regarde des projets au Canada, en effet. Aujourd'hui, on a des bureaux et filiales dans 12 pays en Europe. Donc avec des projets qui sont à différents stades de développement, bien sûr.
On avait parlé donc avec Mathieu Guéné donc aussi de l'introduction en bourse en 2022. Ça a changé quelque chose au sein de l'entreprise, parce qu'évidemment parfois on perd un peu de sa souveraineté de gouvernance. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les ambitions sont restées les mêmes?
Les ambitions sont restées les mêmes. L'énergie de l'équipe est toujours la même aussi. Moi, ça fait 4 ans que j'ai le plaisir de participer à cette aventure et c'est un plaisir renouvelé tous les jours.
Côté effectif, combien de personnes chez Life?
Aujourd'hui, on avoisine les 200.
200 personnes. Oui. Et chez TSE, on en est où? Donc une création plus ancienne, je crois que ça remonte à 2012.
Tout à fait.
On en est où? Donc 11 ans après la création, est-ce que le photovoltaïque, on sait parfois qu'on se dit est-ce que c'est assez productif en termes d'électricité? Vous connaissez les fameux débats sur ce point. Quel est votre niveau de développement actuellement chez TSE?
Bah écoutez, nous, on regarde un petit peu ce que RTE a défini, ou en tout cas estimé, comme besoin jusqu'à 2030 sur la partie solaire. On est à 8 gigawatts, sachant que pour vous donner une idée du gap qu'il y a à franchir, chaque année, jusqu'à maintenant, c'était plutôt 1,5, maximum 2 gigawatts qui étaient mis en ligne. Donc là, il faut faire 4 fois plus chaque année. Donc nous, notre ambition là-dedans, c'est d'arriver à faire 1,5 gigawatts par an, seulement pour TSE. Et pour pouvoir le réaliser, nous avons aussi 270 collaborateurs qui nous aident tous les jours à faire en sorte que ça puisse se passer sur ce type de projet-là, c'est-à-dire des friches industrielles, mais pas que, puisque nous sommes un des leaders de l'agrivoltaïsme.
Donc oui, absolument.
On le fait aussi sur cette partie-là. Et puis on aide aussi les industriels, on aide le secteur tertiaire à décarboner un petit peu leurs activités, leur permettant de réduire leur facture énergétique.
Parce que vous travaillez, vous deux, sur la mobilité, sur l'industriel. C'est vraiment les deux. Vous c'est plus les deux. Vous, c'est uniquement sur de l'industriel?
Alors, l'industriel, mais pas que, puisque je le disais, on est un des leaders de l'agrivoltaïsme. Donc, on a vraiment ces trois activités-là, agrivoltaïsme, secteur industriel et corporate PPA, c'est-à-dire vendre l'électricité directement à ceux qui en ont besoin.
Et rappelez-nous ce qu'est l'agrivoltaïsme, même si on comprend les deux mots.
Oui, l'agrivoltaïsme, en fait, c'est une combinaison, c'est l'art de combiner à la fois la production agricole et la production énergétique.
Avec une canopée qui a été inaugurée, je crois, en juin 2022 du côté de la Haute-Saône. Hein, c'est
tout
bien
à
ça
fait. Une première canopée qui est effectivement inaugurée l'année dernière. Et puis là, on en a une deuxième qui est dans pas très longtemps, le 21 septembre à Bouchy, où il y aura pour la première fois un système d'irrigation pilotable intelligent, c'est-à-dire des sondes en fait, qui sont sous le sol pour mesurer le taux d'humidité et donc pouvoir irriguer quand c'est nécessaire.
Parmi les grands projets, il y a le projet Holosolis, le consortium Holosolis. On en est où? C'est une des plus grandes centrales, sinon la plus grande centrale européenne de photovoltaïque. Et ce sera donc à Sarreguemines, en Moselle.
Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Donc, l'idée, en fait, c'est au-delà d'être producteur, exploitant et vendeur d'électricité, l'idée, c'est aussi de pouvoir fabriquer certains composants des centrales électriques photovoltaïques qu'on développe. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'investir sur ce site de Moselle pour une fabrication de panneaux qui, à terme, on l'espère, sera capable de générer à peu près 5 gigawatts par an de panneaux photovoltaïques.
Un mot envers tous les deux pour finir cette séquence. On parle beaucoup dans cette émission et surtout depuis quelques mois de la réindustrialisation du territoire. On sent bien que l'industrie a à nouveau le vent en poupe après des années de désindustrialisation. Vous êtes confiant évidemment dans votre projet, mais est-ce que vous êtes confiant dans cette stratégie qui est en train enfin de prendre la France? Je commence avec vous, Maud Auger.
Oui, mais réindustrialiser des sites, c'est beaucoup de challenges, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités pour les entreprises qui s'installent. On parlait du poste source, il y a aussi une liaison ferroviaire. Enfin, c'est une vraie opportunité pour nous et on espère fortement pouvoir dupliquer ce modèle sur plusieurs friches industrielles en France dans les années à venir.
On vous le souhaite et on vous recevra. Un mot voilà, sur cette stratégie et cette volonté en France. Il n'y a pas qu'une stratégie, il y a une volonté même de la population de revoir des industries sur nos territoires. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alban Casimir?
Oui, tout à fait. Je suis en phase avec ça. Décarboner notre économie, c'est important. Et réindustrialiser, ça l'est tout autant puisqu'on s'est rendu compte quand même que c'était quand même beaucoup d'emplois qui partaient et on a quand même besoin d'emplois en France.
Et bien, sur cette note positive, on va conclure cet entretien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce hub énergétique vert qui va voir le jour d'ici quelques mois, quelques années, parce qu'il faut le temps que tout ça se mette en place sur l'ancien site des Fonderies du Poitou dans la Vienne. Dans un instant, on va parler de la collection rugby du fabricant français de cravates Cynabre. Mais juste avant, dans l'actualité de la semaine, eh bien, il y a aussi le retour sous pavillon français d'une des plus grandes marques de lunettes, c'est Vuarnet, qui va être rachetée par LVMH. Vuarnet, une marque et un style plébiscité depuis plus de 60 ans par de nombreuses stars, comme nous l'explique Pauline Tadevin.
Alain Delon dans La Piscine, Daniel Craig dans James Bond, les plus grandes stars de cinéma ont porté des lunettes Vuarnet. La marque est née à la fin des années 50 de l'association d'un opticien et du champion de ski Jean Vuarnet. Elle a été rachetée il y a 10 ans par un fonds d'investissement britannique, mais n'a pas réussi à retrouver son succès d'antan. C'est la première acquisition de Telios, filiale lunetière de LVMH, qui fabrique les lunettes pour les différentes maisons du groupe, comme Céline, Dior ou Fendi. Vuarnet est une pépite qui reste l'une des rares marques à produire ses propres verres minéraux haut de gamme dans son usine de Meaux. Elle viendra parfaitement compléter le portefeuille des maisons LVMH, d'après un communiqué de Telios, qui ambitionne de son côté de relancer Vuarnet en termes de croissance et d'expansion au niveau mondial.
On va rester dans le domaine de la mode et des accessoires. Bonjour Alexandre Chapelier.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec plaisir, vous êtes le fondateur de Cynabre Paris, spécialiste des nœuds papillons et des cravates, tout cela fabriqué en France, on y reviendra. Mais si vous êtes sur ce plateau, je précise qu'on enregistre le vendredi 8 septembre, donc au tout début de la Coupe du Monde, c'est parce que vous sortez, en fait, vous enrichissez une collection baptisée 3e mi-temps, et ce bien sûr à l'occasion du début de la Coupe du Monde de rugby, collection de cravates. Je précise que vous m'en avez prêté une, donc c'est celle que j'ai sur moi, et c'est celle que vous avez, bien évidemment. On voit le bleu, blanc, rouge. Alors, parlez-nous de cet enrichissement de la collection troisième mi-temps.
Eh bien, écoutez, en fait, bon, voilà, dans l'équipe, on est tous fans de rugby, donc on attendait avec impatience le 8 septembre. J'ai mon associé, d'ailleurs, qui va au Stade de France ce soir. On a tous nos billets. Et donc, voilà, on voulait faire une collection hommage au rugby, surtout que c'est un sport où il y a encore cette tradition de la cravate. Donc là, vous portez la cravate 15 de France. Moi aussi, une version, on va dire, pour les fans ultra. Et après, on a d'autres versions de cravate, plus avec l'emblème des 15 principales équipes, par exemple, qui participent.
On retrouve quoi?
On retrouve
un chardon,
exactement. On retrouve les Irlandais qu'on va peut-être croiser en quart. On retrouve évidemment l'Argentine, les Springboks, les Italiens, évidemment la Nouvelle-Zélande avec la fougère, et pour les Néo-Zélandais en hommage quand même, voilà, la cravate AK aussi qu'on sort pour la Coupe du Monde.
On souhaite que ça leur porte pas trop chance quand même.
Voilà. Exactement.
La particularité de toute cette gamme et de tout ce que vous faites, c'est que vous faites du fabriqué en France, et c'est aussi pour ça que je voulais vous recevoir. Vous fabriquez l'essentiel, je crois, de tous vos accessoires dans le Loir-et-Cher.
Tout à fait. En fait, quand j'ai démarré Synar il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai relancé un atelier de nœuds papillons et cravates dans le Loir-et-Cher. Maintenant, on a élargi un petit peu notre savoir-faire là-bas. Et on a élargi aussi la gamme de produits. Je dirais que les nœuds et cravates, c'est un peu plus de 50% de notre activité. Mais maintenant, on fait beaucoup de carrés, de foulards, de sacs, et on se lance aussi dans le lifestyle également.
On parlera de la diversification. Ces cravates-là, elles sont au prix de 135 €, ce qui est quand même un prix un peu conséquent. Est-ce que c'est la conséquence du Made in France? Est-ce que le Made in France, ça a un coût?
Alors, le Made in France, oui, c'est cher, il faut le dire. Mais je pense que cher, c'est pas forcément le bon terme. Il faut se dire que, voilà, il faut pratiquement une heure pour faire une cravate. Il y a toute la qualité du tissu aussi, parce que chaque pièce chaque collection est différente. On fait pas la cravate au kilo qu'on trouvait sous plastique dans les grands magasins. Là, c'est des pièces particulières. Rien que le prix de la matière vaut très cher, il a beaucoup augmenté. Donc voilà, on n'a pas fixé ces prix juste pour être cher, mais c'est aussi un coût qui est important, mais qui pour moi vaut le coup aujourd'hui.
Il justifie. Voilà. On va rester sur des contrats prestigieux. Vous avez décroché, je crois, il y a quelques temps, le contrat des nœuds papillons des huissiers de l'Élysée. On va voir quelques images. Comment est-ce qu'on décroche un tel contrat? C'est du pluriannuel. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres du contrat?
Alors, c'est honnêtement un petit contrat, hein. C'était un petit appel d'offres de la présidence de la République pour avoir des nouveaux nœuds papillons. C'est les fameux nœuds papillons.
C'est les nœuds blancs. On les voit pour ceux qui nous suivent en télévision.
Voilà, c'est nos papillons des huissiers de la présidence de la République. Voilà, ceux qui sont au plus proche du président de la République. Donc là, on parle d'une dizaine de pièces. Donc c'est pas énorme pour notre chiffre d'affaires, mais par contre, en termes d'image, ça représente beaucoup pour nous, et même pour les filles à l'atelier.
C'est prestigieux.
C'était un plaisir pour elles, et ça représentait quelque chose pour elles de fabriquer ces accessoires.
On reste à l'Élysée avec le président Macron qui porte vos cravates. Depuis quand? Et ça a changé les choses pour vous?
Oui, clairement, ça y a eu un avant et un après pour nous. Ça a commencé avant son premier mandat. C'était 6 mois avant les élections, donc c'était encore le jeune candidat Emmanuel Macron. Et donc c'était des membres de son équipe qui nous avaient contactés, qui connaissaient la marque et qui nous avaient proposé de fournir quelques cravates au candidat Macron. Et aujourd'hui, depuis qu'il a été élu, il doit avoir une quarantaine de cravates de Synabre.
Et le contrat, pardon, vous les lui fournissez à titre gracieux, et c'est le meilleur des ambassadeurs, ou est-ce qu'il y a un contrat plus mercantile?
Non, c'est donc on lui offre à titre gracieux, voilà, et en échange, on a cette possibilité d'en parler et d'être reçu sur votre plateau. Donc je dirais que c'est un échange gagnant-gagnant. Pour lui, c'est aussi être un peu un ambassadeur du savoir-faire français, du Made in France, des petits artisans, parce qu'il n'y a pas que les grands groupes, mais il y a aussi des petits artisans comme nous. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il puisse, même quelqu'un à ce niveau-là, à ce poste-là, qui puisse soutenir des petits ateliers, des petits confectionneurs, bah c'est un sacré coup de pouce.
Et
pour
ça
nous.
A boosté vos ventes, que ce soit avant ou après la première élection?
Oui, ça a boosté, c'est clairement, ça a boosté nos ventes. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on réalise pratiquement 50% de notre activité à l'export. Donc c'est clairement le fait d'être fournisseur de l'Élysée, c'est une histoire que les étrangers adorent, les Américains, les Anglo-Saxons, ils adorent ce genre d'histoire. Donc c'est sûr que ça nous aide beaucoup.
On a beaucoup parlé donc des nœuds papillons et des cravates. Maintenant, donc vous le disiez, la moitié de votre chiffre d'affaires, c'est la diversification. On parle de quoi? Alors on parle des accessoires. Vous allez nous le dire, gants, ceintures, chaussettes, etc. Mais moi, j'ai été surpris sur votre site de trouver des suites hôtelières qu'on peut louer. Pourquoi cette diversification-là?
En fait, on a une opportunité au-dessus de notre boutique à Paris de récupérer
Cité Bergère
dans le 9e, de récupérer deux locaux juste au-dessus qui étaient vides. Et en fait, on les a transformés en deux suites hôtelières. Dans notre boutique, on a créé même un petit desk pour le groom. Donc, pour nous, c'est en fait, c'était une opportunité d'exposer nos produits, de mettre en avant notre savoir-faire et le savoir-faire artisanal français. Donc, c'est un peu un porte-drapeau de l'artisanat français.
Parce que tous les produits que vous mettez ou dans vos suites ou dans les accessoires sur votre site, c'est du Made in France?
Voilà, c'est pratiquement, on va dire, à 95% du Made in France. Après, si il n'y a plus le savoir-faire en France, on va au plus proche. Donc, on travaille un petit peu avec l'Italie, par exemple, sur nos robes de chambre qui sont faites à la pièce en Italie. Et par exemple, vous parliez de nos suites. On travaille également avec Hestens, qui est la Rolls-Royce de la literie, qui est faite à la main en Suède aussi. Donc voilà, à chaque fois, on va essayer de chercher le meilleur dans son domaine.
Il nous reste 10 secondes, Alexandre Chapelier. Donc je le répète, cette émission est enregistrée vendredi en début d'après-midi. Un pronostic pour le match France-Nouvelle-Zélande?
Allez, 40-25 pour la France, comme en 2021, comme ça, il y aura du jeu.
Et pour la suite, est-ce qu'on gagne cette Coupe du Monde?
Allez, on va la gagner.
Allez, on va gagner la Coupe du Monde, on va ramener la Coupe à la maison, mais on est déjà à la maison. Merci beaucoup.
Merci
à tous les trois d'avoir été les invités de l'émission La France a tout pour réussir. Je précise qu'à propos de la Coupe du Monde de rugby, ne manquez pas ce week-end la rediffusion de la nouvelle émission Sport Business présentée par Sandra Gandoin. Émission donc à voir ou à écouter ce samedi à 20h, ce dimanche à 23h et sur tous les supports digitaux de BFM Business. C'est bien sûr la même chose pour La France a tout pour réussir. Vous nous retrouvez en télé, en radio et sur tous les supports digitaux qui accompagnent notre chaîne. La semaine prochaine, une émission spéciale nautisme à l'occasion du Cannes Yachting Festival qui se tient du 12 au 17 septembre à Cannes, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end et à bientôt sur BFM Business et vive la France donc pour la Coupe du Monde de rugby.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.